Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Aujourd'hui, aux États-Unis, dans l'État du New Hampshire, se déroulent les premières élections primaires qui donnent le départ de la course à la Maison Blanche. Cette consultation de l'électorat américain a pour objectif de permettre une première sélection des candidats qui brigueront à l'automne prochain le fauteuil présidentiel des États-Unis.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En face du tumulte des primaires américaines destinées à dégager les futurs candidats des partis à la Maison-Blanche, nous ne nous sentons pas toujours, nous Français, en terrain familier. Là où nous sommes à la fois concernés et distanciés, les ressorts et les règles nous en demeurent souvent obscurs. Nous voyons un long calendrier d'affrontements successifs, un calendrier dont la logique géographique n'est pas toujours claire. Nous constatons que les résultats peuvent être renversés d'un coup, d'un épisode à l'autre. Nous observons que les règles du jeu ne sont nullement uniformes d'État en État. Nous cherchons à distinguer qui sont précisément ceux qui votent et ceux qui ne votent pas. Nous tâchons de mesurer le poids respectif dans la bataille des personnalités et de leurs programmes. Nous constatons, sidérés, les formidables sommes d'argent qui sont mobilisées et dépensées dans ces tournois avec des effets très incertains. Eh bien, comme toujours, notre provisoire désarroi intellectuel ne peut commencer d'être dissipé que si l'on fait fond sur l'histoire. Car c'est elle seule qui permet, sur la durée de 2 siècles et demi, de comprendre un peu mieux la nature de ce match à multiples combattants dont le résultat est essentiel, puisqu'il s'agit en fin de compte du gouvernement des États-Unis d'Amérique, donc aujourd'hui du destin de la planète tout entière. Je vais faire appel à cette fin, comme plusieurs fois déjà, aux lumières de Pap Ndiaye, professeur des universités à Sciences Po. Il y enseigne la civilisation et la politique américaine. Il saura à coup sûr nous expliquer la genèse et les résultats d'un processus démocratique où se mêlent d'étranges désuétudes et la modernité des moyens nouveaux de communication voués à bouleverser, sans l'effacer, un héritage qui s'enracine loin en arrière. Let's go!
While some on rights and some on wrongs prefer their own reflections, the people's rights demand our song, the right of free elections. For government and order's sake and law's important sections, let all stand by the ballot box for freedom of elections. Law and order be the stake with freedom and protection. Let all stand by the ballot box for fair and free elections. Each town and county's wealth and peace, its trade and all connections with science, arts must all increase by fair and free elections. Then thwart the schemes of fighting lands and traitor disaffections. Stand up with willing hearts and hands for fair and free elections. Law and order be the stake with freedom and protection. Let all stand by the ballot box for fair and free elections. Should enemies beset us round of foreign fierce complexions, undaunted we can stand our ground upheld by free elections. Elections are to make us laws for trade, peace and protection. Who fails to vote forsakes the cause of fair and free elections. Law and order be the stake with freedom and protection. Let all stand by the ballot box for fair and free elections.
Pap Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert un chant d'appel aux urnes, Free Elections, qui est antérieur à 1800, j'ignore d'ailleurs qui est l'interprète, mais qui me paraît nous conduire tout droit dans la préhistoire de notre sujet de ce matin.
En l'occurrence, les premiers temps de la jeune République américaine, avec la question évidemment de l'élection présidentielle qui se pose dès 1789, lorsque George Washington est élu, 2 ans après la Constitution votée à Philadelphie.
Que nous dit ce chant d'appel ?
C'est une référence au fait de voter librement, par contraste avec les temps de la tyrannie britannique. Avant l'indépendance des États-Unis, ce pays est fondé sur une révolution démocratique où l'accès au droit de vote a toute sa place. Pour les hommes, bien entendu, pas pour les femmes, et puis pour les hommes libres, blancs, pas pour les esclaves.
Comment s'organise dès les origines ce système d'élection ? Comment surgissent les candidats et par conséquent les présidents ?
Rien n'est prévu dans la Constitution américaine de 1787. Pas un mot sur les partis, pas un mot sur le processus de désignation des candidats. Et donc, ce qui s'est imposé dans l'histoire américaine, c'est une succession de règles, de changements, de variations géographiques, de variations dans le temps. Washington, lorsqu'il est élu président en 1789, refuse même l'idée d'une appartenance à un parti qui lui semble être trop réductrice et menacer l'intérêt général. Il lui semble que les États-Unis doivent se débarrasser de toute idée de parti. Mais pourtant, il y a bien des partis qui naissent parce qu'il y a des débats, en particulier entre ceux qu'on appelle à la fin du XVIIIe siècle les fédéralistes, ceux qui sont plutôt partisans d'un État fédéral fort qui établissent des règles communes à tous, et puis ceux qu'on appelle les démocrates républicains qui, eux, sont plutôt favorables à un pays décentralisé où chacun des 13 États puisse se gouverner comme il l'entend.
Donc à l'origine, on ne peut guère parler de droite et de gauche. Tout se noue, l'opposition se noue autour de cette question essentielle. À quel point centraliser ?
Voilà, c'est une question qui organise la vie politique au début du XIXe siècle, dans les années de la jeune République, avant que progressivement d'autres questions sociales, liées en particulier à l'émergence de la classe ouvrière avec la révolution industrielle et les bouleversements suite aux phénomènes migratoires, que ces questions-là viennent transformer la vie politique. Mais à l'époque, c'est bien l'opposition entre les décentralisateurs et les centralisateurs qui est centrale.
Et forcément, très vite, dès le début du XIXe siècle, se pose la question de savoir comment peuvent être choisis ceux qui vont être candidats à l'élection centrale, essentielle, celle de la présidente. Je relève dans un excellent article d'un professeur de droit public et constitutionnel, Thomas Hockman, dans la revue Pouvoir, qu'il prend plaisir à comparer ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire la fabrique des candidats à l'élection présidentielle. Il compare cet ensemble, ce système, dans l'imaginaire américain, à une sorte de western. Et il évoque celui très fameux de Sergio Leone. Le bon, la brute et le truand. En l'occurrence, pour lui, le bon, ce serait le citoyen. La brute, ce serait l'État, ou les États, nous allons le voir. Et le truand, ce serait le parti. Est-ce que cette comparaison, Pam Diaye, vous paraît bienvenue ?
Elle me fait sourire, puisque au XIXe siècle, si de ces trois éléments, il y en a un qui tient le haut du pavé, ce serait plutôt le truand. Tant il est vrai que le XIXe siècle se caractérise par un processus de désignation des candidats qui est tout à fait limité aux notables des partis qui se réunissent dans des arrière-salles enfumées, comme on le dit, enfumées par les cigares, bien sûr, des élus importants qui décident entre eux de qui sera candidat. Le processus démocratique que l'on va connaître au XXe siècle n'existe pas du tout. Il y a également des caucus qui sont importants, mais ces assemblées dans les États sont contrôlées par les notables du parti, par ce qu'on appelle les boss, des machines qui se mettent en place surtout à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.
Donc le bon, c'est-à-dire le citoyen, est assez largement exclu, et l'État ou les États interviennent assez peu dans l'organisation de ces primaires.
Exactement, puisque ces primaires sont conçues comme des dispositions privées qui relèvent des règlements internes à chaque organisation politique. Les États sont en charge des élections officielles, en premier lieu bien sûr l'élection présidentielle du mois de novembre. En revanche, le mode de désignation des candidats à l'élection présidentielle ne relève pas de l'autorité publique, mais des organisations politiques qui, de ce point de vue-là, peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent.
Aujourd'hui encore, la Cour suprême a eu à intervenir à plusieurs reprises pour savoir quelle était la responsabilité des États, la brute d'après cette comparaison, par rapport à celle du parti, le truand à l'époque, et avec l'exclusion du bon, c'est-à-dire le citoyen caucus. Caucus, d'où vient le mot? On nous dit que ce serait, mais vous avez l'air d'en douter un peu, un mot d'origine indienne, un mot algonquin. J'essaye de le prononcer à ma manière. Co-co-as-u, celui qui conseille, celui qui incite, celui qui encourage.
J'admire votre accent algonquin pour parler du caucus.
J'agrée votre salut.
On ne sait exactement quelle est l'origine de ces assemblées. Elle est certainement antérieure à la création des États-Unis. Du côté de l'Amérique coloniale, il y avait des assemblées de citoyens qui pouvaient décider de leurs affaires locales. Du côté de certaines nations indiennes, il y a également des modes de décision collectifs qui peuvent ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui les caucus. Quoi qu'il en soit, il est certain que cette forme-là s'est imposée au XIXe siècle dans des communautés qui étaient souvent des communautés rurales où il était relativement aisé de rassembler la population d'une bourgade dans une école ou dans un lieu public quelconque afin de peser la popularité des candidats pour une élection sénatoriale ou bien l'élection présidentielle.
Les caucus ont beaucoup reculé, mais il y en a encore aujourd'hui, puisque nous avons noté que dans l'Iowa, par exemple, contrairement au New Hampshire, au début de la course récente, le caucus perdure.
Il en reste 13 actuellement des caucus sur les 50 États, plus quelques territoires. Donc les caucus sont effectivement en net recul. Et puis ce qui s'est passé et les complications suite au caucus de l'Iowa il y a quelques semaines ne vont pas arranger les affaires de cette forme politique qui résiste cependant, mais qui fait l'objet de très nombreuses critiques à la fois.
Le temps qu'il a fallu pour savoir quels étaient les résultats, c'est à quoi
le temps qu'il a fallu, les problèmes informatiques qui se sont ajoutés à cela, et puis le fait que le caucus ne semble plus adapté aussi aux sociétés contemporaines, beaucoup plus urbaines que par le passé, où il est difficile de rassembler de manière démocratique la population intéressée, surtout que ces caucus peuvent durer pendant des heures, se terminer au milieu de la nuit, et donc évidemment les militants les moins acharnés lâchent l'affaire au cours de la soirée. Il y a également des manœuvres qui peuvent venir perturber ces assemblées démocratiques. Bref, les caucus font l'objet aujourd'hui de très fortes critiques, mais ils survivent encore. On va voir pour combien de temps.
Longue durée, par opposition à la brièveté d'un vote et incertitude sur ce qui se passe en profondeur. Je vais vous faire entendre un extrait d'un film très célèbre, le film de John Ford de 1962 qui s'appelait « L'homme qui tua Liberty Valance », qui évoque l'émergence d'un sénateur qui est interprété par James Stewart en face de John Wayne, le sénateur qui fonde son succès sur la mythologie du fait qu'il aurait été celui qui aurait assassiné le méchant truand, justement. Et cela donne assez bien l'ambiance, vous allez voir, de ce que pouvait être quelque chose comme ces caucus que vous évoquez il y a un instant.
Il faut que nous devenions un État.
Entièrement d'accord, docteur. Herbert,
qui est-ce?
C'est trop jeune pour voter. Retourne à l'école.
Comme d'habitude, Harry.
Le bar est fermé. Le bar est fermé pendant le scrutin, monsieur le rédacteur. Voyez votre ami, l'avocat. Il dit que c'est une des lois fondamentales de la démocratie, qu'il n'y a aucune exception.
Silence!
Puisque notre autorité légale interdit le bar ce soir, je propose que Ronson Stoddart, avocat à la cour, vienne ici et préside la séance.
J'appuie cette motion.
Moi, je vous ai là à appuyer.
Silence, silence. Allons, silence.
Maintenant, vous savez pourquoi nous sommes ici. Nous devons élire deux délégués. Parce que l'accroissement de population au sud du Piquetoir nous donne droit à deux délégués. Les délégués nous représenteront à la convention territoriale de Capital City qui décidera si nous devenons un État.
Un État!
Vous connaissez la question. Les gros éleveurs veulent que nous demeurions un territoire pour leur bétail.
Ah,
continuer à faire la loi et s'en tenir à des idées qui ne sont plus de notre temps. Et moi, comme vous tous qui êtes venus en nombre, j'estime que nous devons être un État. Nous voulons être un État parce qu'un État signifie la protection de nos fermes, de nos villes. Ça signifie des écoles pour nos enfants. Ça signifie le progrès pour le futur. Maintenant, nous allons procéder à l'examen des candidatures. Rappelez-vous que vous pouvez désigner autant de candidats que vous voudrez. Celui que je propose est l'homme qui est, je crois, un des seuls hommes à Shinbone qui ait toutes les qualités requises pour défendre notre point de vue avec succès. Ce serait des heures qu'il me faudrait pour énumérer tous ces titres. Mais je sais que tout le monde ici est de mon avis et par conséquent, il est inutile d'en dire davantage. Celui que je vous propose est Tom Delay.
Pap Ndiaye, ce n'est pas exactement là l'élection de candidat, la désignation de candidat à la présidentielle. Il s'agit de savoir si un territoire va devenir un État et d'envoyer des délégués pour cela. On ne nous dit pas d'ailleurs de quel État il s'agit. Est-ce que c'est le Kansas, l'Oklahoma, peut-être le Colorado?
C'est certainement le Colorado qui devient un État en 1876 et qui était auparavant donc un territoire. Et c'est autour de cette question de la transformation du territoire en État que le film tourne en partie. Je rappelle au passage que les habitants actuels des territoires américains, puisque les États-Unis ne sont pas formés que de 50 États, mais également d'un certain nombre de territoires comme Porto Rico, comme les îles de Guam, de Samoa, des Mariannes du Nord ou les îles Vierges, que ces habitants-là ne peuvent pas voter à l'élection présidentielle du mois de novembre, mais qu'ils peuvent voter aux primaires des partis républicains et démocrates, puisque ces événements-là sont des événements privés, en quelque sorte. C'est donc le paradoxe du territoire.
Ce ne sont pas des citoyens, en somme, ce sont des habitants.
Ce sont des citoyens de seconde zone, en quelque sorte, qui n'ont pas tous les droits civiques des citoyens des États américains, qui sont maintenus dans une situation très ambiguë de non-représentation politique, bien que disposant d'un passeport américain.
Je relève d'ailleurs que c'est dans les îles Samoa, semble-t-il, que le milliardaire Bloomberg a obtenu une majorité, le seul endroit, ce qui revient à faire coûter cher chacun de ses électeurs, compte tenu des 500 millions de dollars qu'il aurait déjà dépensés.
En effet, l'aventure de Bloomberg s'est terminée de manière piteuse, mais ce que l'extrait qu'on vient d'entendre montre, c'est également que la vie politique américaine au XIXe siècle se situait dans des lieux qui étaient tout à fait informels et un peu incongrus pour nous autres Français, comme les saloons et les bars, qui étaient des lieux politiques importants. C'était des lieux où l'on pouvait voter, il y avait des scrutins qui étaient organisés, des caucus où les partisans de tels candidats pouvaient se rassembler et se compter. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'un certain nombre de tenanciers de bars ont commencé leur carrière politique. Je pense au grand-père de John Kennedy, qui était tenancier de bar à Boston et qui, en profitant de sa centralité politique dans le quartier où il habitait, quartier irlandais bien sûr, a commencé la longue carrière et dynastie politique des Kennedy.
Les caucus ont été critiqués de longue main. Je relève l'ironie de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles qui en propose une satire. Il raconte que cette course aurait été organisée par le dodo, cet oiseau aujourd'hui disparu, et qu'il n'y aurait aucune règle. Alors, au signal du départ, les divers animaux qui participent se mettent à courir dans tous les sens. Quand le dodo déclare la course terminée, les participants lui demandent qui a gagné. Il répond que tout le monde a gagné et que tout le monde doit recevoir un prix. En fait, le caucus n'était pas aussi absurde que la course qu'a décrite Lewis Carroll.
Mais les voyageurs européens, souvent, étaient très surpris au XIXe siècle de rencontrer cette forme particulière de désignation des candidats, unique aux États-Unis. Et ils pouvaient également s'émouvoir du fait que le caucus donnait l'apparence d'une grande désorganisation, avec des manœuvres, avec une manière de compter aussi les partisans des candidats qui pouvaient être tout à fait suspects. Bref, le caucus a toujours été critiqué, en particulier par les observateurs européens.
Le poids de la corruption éventuellement était lourd. Le Tammany Hall est un lieu qui, à cet égard, s'est fétide et resté célèbre dans l'histoire du Parti démocratique américain au XIXe siècle.
Absolument, à propos de New York en particulier, dominé par la machine démocrate et par les boss des machines, ces puissants personnages politiques qui parfois avaient partie liée avec la mafia, la pègre locale, et qui donnaient le ton aux élections de telle sorte que le processus démocratique de désignation des candidats n'avait de démocratique que le nom. La réalité, c'était que ce processus-là était contrôlé par les machines, contrôlé par de puissants élus démocrates ou républicains, d'ailleurs, pour les deux partis qui s'imposent dans la vie politique américaine à partir du milieu du XIXe siècle.
On ne s'étonne pas dans ces conditions qu'à ces procédés assez oligarchiques qu'incarnait le caucus, que représentait le caucus, que portait le caucus, on se soit efforcé d'apporter une réponse démocratique à partir du début du XXe siècle, date importante pour l'apparition des primaires.
En effet, puisque le début du XXe siècle aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la période progressiste, qui voit l'émergence de lois qui sont des lois visant à réguler le monde du travail, à apporter un minimum de protection sociale. Bref, c'est une époque tout à fait essentielle de démocratisation aussi de la vie politique. Et c'est dans ce cadre-là de remise en cause des vieilles machines qui donnaient le la à la politique américaine au XIXe siècle que l'idée des primaires émerge. D'abord dans des États spécifiques, au tout début du XXe siècle, et puis à partir de 1912, pour l'élection présidentielle. C'est à partir de 1912 que le Parti républicain se tourne vers un système de primaires de manière à favoriser la volonté des électeurs plutôt que celle des notables et des salles enfumées des bars des grandes villes.
Comme il advient toujours, c'est une conjoncture spécifique qui donne l'occasion de ces changements de caractère organique. Je pense au rôle en particulier du premier Roosevelt, Theodore Roosevelt, qui a été un combattant déterminé de ce type d'évolution.
Exactement, puisqu'il est d'abord président des États-Unis suite à l'assassinat de McKinley, et puis il se présente à nouveau après une pause politique en 1912, et lui s'appuie justement sur les primaires, il se présente comme le candidat du progressisme face à son adversaire républicain Taft. Et de fait, les primaires lui donnent l'avantage, mais le parti républicain manœuvre pour écarter Teddy Roosevelt, qui finalement se présente comme troisième homme en dehors du parti républicain, comme le représentant du parti progressiste.
Et est battu.
Et il est donc battu comme son adversaire républicain par le candidat démocrate qui est Wilson, qui devient dès lors le président des États-Unis.
Et nous aurions à Paris, tout près de la maison de Radio France où nous sommes, nous aurions une avenue du président Taft au lieu d'avoir une avenue du président Wilson.
Ce ne serait pas forcément plus mal, mais on doit quand même à ce dernier éclat politique de la carrière de Teddy Roosevelt l'apparition des primaires dans la vie politique américaine, même si dans les faits, ces primaires demeurent relativement marginales et tendent même à s'effacer dans l'entre-deux-guerres.
Alors, restons un instant dans cet entre-deux-guerres, tâchons de comprendre pourquoi, dans l'histoire du second Roosevelt, FDR, Franklin Roosevelt, qui a aussi son avenue, les primaires jouent un rôle en déclin.
Oui, au sein du Parti démocrate, on se méfie des primaires dans les années 20. Le Parti démocrate est encore le parti des machines, le parti des organisateurs et des notables. Franklin Roosevelt lui-même est gouverneur de New York. C'est un notable important qui tente une première fois de se faire élire comme candidat démocrate en 1928 avant de réussir en 1932 et de devenir le président que l'on sait.
C'est peut-être dans ces deux périodes, celle d'avant 14 et celle de l'entre-deux-guerres, qu'il faut aller chercher ce qui parfois nous étonne, nous surprend, nous désoriente, nous autres Européens, c'est-à-dire la diversité des calendriers, la complexité de la répartition des responsabilités dans les différents États pour désigner les candidats et la permanence des caucus en concurrence avec les primaires.
Les caucus hérités du 19e siècle persistent jusqu'à nos jours. Les primaires émergent à partir du début du 20e siècle, mais chaque État, en l'occurrence chaque organisation politique dans chaque État, puisque il y a un parti républicain de l'Ohio, un parti démocrate de Virginie, etc., décide de son mode de scrutin. Et on a donc une marqueterie, une grande variété de procédures jusqu'à aujourd'hui, avec des primaires qui peuvent prendre des formes variées, puisqu'il existe des primaires ouvertes et des primaires fermées. Donc les choses peuvent aussi être tout à fait variables de ce côté-là aussi. Il n'y a pas aux États-Unis de commission électorale nationale. Il n'y en a d'ailleurs pas non plus pour l'élection présidentielle du mois de novembre. Les États sont libres d'organiser le scrutin comme ils l'entendent, soit avec des bulletins de papier, par exemple, soit avec un vote électronique, ce qui occasionne d'ailleurs beaucoup de controverses et parfois de difficultés majeures lorsqu'il s'agit de compter. On s'en est aperçu en 2000, vous vous en souvenez, en Floride, lorsqu'il a fallu attendre plusieurs semaines avant de conclure l'élection présidentielle et donc la victoire à l'époque de George W. Bush.
Contre Al Gore. Certains pensent encore aujourd'hui que c'est Al Gore en réalité qui a gagné.
On pourrait en débattre longtemps, mais c'est tout à fait symptomatique de la vétusté du système électoral américain, des difficultés que l'on rencontre à chaque fois. Et on n'y a pas échappé pendant les primaires, pendant ces primaires, dans l'Iowa par exemple, avec la question du caucus, et puis d'une manière générale, des questions qui se posent à chaque fois, y compris pendant les conventions, ces grands événements de l'été qui permettent de désigner le candidat final qui va affronter son adversaire pour la présidence des États-Unis le premier mardi de novembre.
Cette grande diversité des situations, des modus operandi d'un lieu à l'autre, Pam Diay, cette grande diversité nous rappelle le poids de l'histoire et le maintien de ces traditions centrifuges des États-Unis qui, dans notre cher État jacobin de France, peuvent nous apparaître un peu décalées.
En effet, c'est à la fois le silence de la Constitution américaine à ce sujet et donc une histoire qui s'est construite, qui s'est sédimentée en quelque sorte depuis deux siècles, avec aussi des variations importantes entre les partis. Le Parti républicain est plutôt historiquement attaché à la liberté des différents États et donc c'est au sein de ce parti que l'on peut trouver les variations les plus importantes du point de vue des modes de scrutin. Le Parti démocrate essaye quand même, surtout depuis 1968, on en reparlera, d'unifier, ou en tout cas d'imaginer des règles qui soient à peu près nationales, même si celles-ci souffrent de nombreuses exceptions.
Toujours avec la question, parfois arbitrée par la Cour suprême, du rôle respectif des États et des partis dans la définition des règles. Mais puisque vous évoquez la suite, allons-y sans désemparer. Pam Diay, et évoquons l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où les primaires s'affirment comme de plus en plus essentielles. Je vous propose, pour y entrer tout droit, cette archive qui évoque, elle date du 20 juillet 1960, qui évoque la façon dont le Parti démocrate a choisi John Kennedy pour l'élection présidentielle. C'est un extrait des actualités françaises.
Qui serait désigné comme candidat du Parti démocrate à la présidence des États-Unis? Adlai Stevenson, candidat déjà deux fois malheureux, que ses supporters présentaient une troisième fois. John Kennedy, qui malgré son double handicap, sa jeunesse, il a 43 ans, et sa religion, il est catholique, était désigné comme pouvant réunir une large majorité dans le parti. Et en dernière ligne, le sénateur du Texas, Lyndon Johnson, dont les chances étaient bien moindres que celles des deux premiers, entre lesquels la lutte devait être chaude. En dépit de l'appui apporté par Madame Roosevelt à Stevenson, 845 voix sont allées à John Kennedy, c'est-à-dire une très large majorité. Et le jeune candidat, devenu aujourd'hui le porte-drapeau officiel du Parti démocrate, va préparer maintenant la grande bataille qui va l'opposer au leader républicain, c'est-à-dire au vice-président Nixon.
Là, nous nous approchons, Pam Diay, de notre présent, de nos constatations d'aujourd'hui, de nos incertitudes, de nos curiosités contemporaines.
Oui, dans la mesure où cette primaire démocrate de 1960 voit émerger la figure jeune et charismatique de John Kennedy, qui est sénateur du Massachusetts, qui n'est pas encore très connu à l'échelle nationale, et qui mobilise des nouvelles techniques pour se faire connaître. Il se déplace de manière très rapide en avion et à travers tout le pays. Il rencontre beaucoup de monde, plus que ses prédécesseurs lors des primaires ou que ses concurrents. Et puis, il fait appel à la publicité télévisée. C'est au fond la principale innovation marketing de la campagne de Kennedy que la publicité télévisée qui impose son sourire rayonnant à la télévision, son optimisme aussi, qui contraste avec ses concurrents.
Déjà, la radio avait servi la campagne de 1952, par exemple, celle qui a vu Eisenhower, le républicain, le général Eisenhower, émerger.
C'est vrai, la radio joue un rôle très important dans les années 50, et puis la télévision arrive à partir de 1960. Il y a un saut à la fois du point de vue de la popularité des candidats, mais également du point de vue des finances, parce que la publicité télévisée coûte très cher.
Là, vous ne pensez pas seulement au fameux débat entre Nixon et Kennedy, c'est-à-dire le candidat républicain contre le candidat démocrate, mais même le moment essentiel de l'émergence du candidat, c'est-à-dire au cœur des primaires, à quoi nous consacrons l'émission de ce matin.
Voilà, c'est comme cela que John Kennedy se fait connaître entre le début 1960 et puis la convention démocrate de l'été. Et cette après-guerre-là, elle confirme en quelque sorte l'importance des primaires parce que ce ne sont plus les notables du parti qui font la pluie et le beau temps. Les primaires permettent, en particulier par les médias, la radio et la télévision, l'émergence de figures qui n'étaient pas nécessairement prévues, qui n'étaient pas nécessairement planifiées par les bosses du parti, et c'est le cas en particulier donc de John Kennedy en 1960, ou même d'ailleurs en 1952 d'Adlai Stevenson, qui devient le candidat démocrate, qui est battu par Eisenhower au mois de novembre, et qui n'était d'ailleurs pas candidat aux primaires. Il apparaît lors de la convention, il est chargé de faire le discours inaugural de la convention et de présenter les candidats, et puis son discours est tellement enthousiasmant que les délégués finalement décident de le choisir comme leur candidat. Mal leur en a pris d'une certaine manière puisqu'il a échoué quelques mois plus tard.
Deux fois d'ailleurs également, en 1956. Il est intéressant de s'attarder un instant sur cet épisode parce qu'il nous confirme que tout n'est pas forcément joué quand se réunissent les conventions.
Des surprises peuvent arriver en effet lors des conventions. C'est un peu moins le cas aujourd'hui dans la mesure où les délégués ont prêté serment de voter pour le candidat pour lequel ils ont été élus lors des primaires. Ce sont les pledged delegates. Mais il peut arriver que des délégués changent de casaque, surtout si leur candidat s'est retiré de la course présidentielle entre-temps. Par exemple, aujourd'hui, les délégués d'Elizabeth Warren sont des délégués en quelque sorte libres qui peuvent porter leur suffrage du côté de Joe Biden ou bien du côté de Bernie Sanders, d'autant plus que, pour l'instant, Elizabeth Warren n'a pas donné de consigne de vote.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Entre les différentes différences qui existent dans ce champ compliqué, on observe celles qui distingue ceux des délégués qui ont un mandat impératif et ceux qui gardent la possibilité de s'exprimer.
Il y a en effet des États qui autorisent leurs délégués à changer de candidat au cours des primaires et éventuellement au cours de la convention. Mais l'effort tout de même, en particulier du côté du Parti démocrate, est de limiter au maximum les événements imprévus lors des conventions, d'éviter à tout prix ce qu'on appelle les conventions contestées, ces batailles féroces lorsque aucun candidat n'émerge à l'issue du premier tour et que cela ouvre la porte à toutes les manœuvres possibles, que cela donne aussi la possibilité aux délégués qui sont nommés par le Parti démocrate, ce qu'on appelle les super delegates, les super délégués,
qui sont libres,
qui eux sont libres, qui obéissent à la consigne du parti. Bref, une convention contestée qui, généralement, augure très mal de l'élection à venir, puisque les acrimonies, les amertumes font que une partie de l'électorat démocrate, si c'est de ce parti dont on parle, ne votera pas lors de l'élection du mois de novembre. C'est arrivé d'ailleurs en 2016, puisque les partisans de Bernie Sanders, en tout cas une partie significative d'entre eux,
démocrates,
n'ont pas voté pour Hillary Clinton au mois de novembre, ce qui a fait perdre l'élection à Hillary Clinton dans les trois États clés qui ont fait basculer l'élection présidentielle en faveur de Trump.
Au fond, ce sont des cas où les conventions redeviennent des sortes de caucus géants.
Oui, j'allais presque dire des champs de foire où l'issue est très incertaine. Et il y en a de fameuses, comme la convention démocrate de Chicago en 1968, qui est restée comme une sorte de traumatisme, en quelque sorte, dans les mémoires du Parti démocrate.
Alors qu'en général, la convention n'est plus l'organe de décision, mais une sorte d'instance géante de ratification des choix des électeurs.
En général, c'est un événement très chorégraphié, très préparé à l'avance, où on essaye d'éviter au maximum toutes les mauvaises surprises. C'est à ce point d'ailleurs que des journalistes célèbres ont abandonné les conventions en plein milieu parce qu'ils en avaient assez d'entendre des litanies de discours déjà distribuées à l'avance avec des applaudissements extrêmement convenus. C'est généralement comme ça que la convention se passe. Elle est sur toutes les télévisions américaines, ça dure toute la journée et c'est quand même globalement ennuyeux. Mais parfois, il arrive qu'il y ait des surprises ou des discours particulièrement brillants de la part de personnalités qui ne sont pas forcément en lice pour la candidature.
Tel Stevenson que vous évoquez il y a un
instant. Tel Stevenson en 1952 ou même Barack Obama lors de la convention démocrate de 2004 qui a fait un discours particulièrement brillant, ce qui donc pouvait préparer en quelque sorte sa future candidature en 2008. C'est à ce moment-là qu'il a émergé comme une personnalité nationale, alors même qu'en 2004, il n'était pas encore candidat.
On a dit la même chose de Pete Buttigieg, comment est-ce qu'on prononce ?
Buttigieg.
Pour la suite, mais il est assez jeune pour pouvoir l'envisager. Je voudrais que nous braquions maintenant, Pam Diaye, l'attention sur un cas spécifique, sur une convention qui a beaucoup marqué les esprits et l'histoire contemporaine des États-Unis. C'est la convention démocrate de Chicago en 1968. Écoutez ce qu'en disait Jacques Salbert, correspondant de la télévision française aux États-Unis d'Amérique. Il présentait le candidat démocrate Eugene McCarthy, d'abord inconnu, puis qui a obtenu le soutien des étudiants qui eux-mêmes étaient très opposés à la guerre du Vietnam et qui a pu apparaître un moment comme un candidat potentiel.
Ce sont les démocrates qui ont provoqué la grande surprise de ces primaries. Trois semaines environ avant le scrutin, arrivait à Manchester, New Hampshire, cet homme à cheveux gris, distingué, qui timidement serrait quelques mains à la sortie de la messe. En se présentant poliment, je suis Eugene McCarthy, sénateur du Minnesota, candidat aux élections primaires du New Hampshire contre le président Johnson. Mais en réalité, personne ne le connaissait au New Hampshire. Ses meilleurs supporters étaient les étudiants et eux-mêmes n'y croyaient pas tellement. Le cheval de bataille du sénateur McCarthy, c'est le Vietnam. Et à une question qui lui est posée de la salle par un étudiant en uniforme, il définit ainsi sa politique vietnamienne.
I think that there are two or three steps that one can take now. The first is we have to be willing to negotiate a coalition.
Pour le sénateur McCarthy, ce qu'il faut d'abord faire, si vraiment on veut négocier, c'est se mettre d'accord sur un gouvernement de coalition au Sud-Vietnam. Sinon, ça n'a aucun sens de parler de négociation. Et peu à peu, le sénateur McCarthy organise sa campagne, des permanences s'ouvrent un peu partout et les volontaires affluent. On commence à le connaître et on téléphone au quartier général pour savoir qui est exactement le sénateur McCarthy. Et au fil des jours, porté par l'enthousiasme des jeunes, McCarthy a pris confiance en lui. Il a fait consciencieusement son métier de candidat à la mode américaine. Cet ancien séminariste a des allures d'intellectuel distingué. On le prendrait facilement pour un professeur. Il n'a évidemment pas l'allure d'un politicien bulldozer comme Kennedy, Johnson ou Lindsay. Il n'a peut-être pas le charme d'un Reagan. Mais Sa réserve est rassurante et lui gagne beaucoup de sympathie. Il plaît au New Hampshire. Et on commence à lui accorder quelques chances. De 10%, il est passé environ à 20%. Finalement, on le prend au sérieux. Et quelques jours avant le scrutin, des vedettes confirmées viennent lui apporter le soutien de leur popularité. C'est ainsi que pendant les quatre derniers jours de la campagne, Paul Newman, la vedette de Exodus, de La chatte sur un toit brûlant, etc., a été d'une activité extraordinaire pour le sénateur du Minnesota. Il n'a absolument pas ménagé sa peine, il a parcouru l'état du New Hampshire dans tous les sens, s'arrêtant dans les supermarchés et plaidant partout la cause du sénateur du Minnesota. Et même la nuit, il continuait. Il allait alors visiter les électeurs chez eux, non pas pour signer des autographes, mais sérieusement pour parler politique.
Je vous ai d'autant plus volontiers amené à Chicago, Pam Diaye, que vous avez consacré à cette ville essentielle, un livre qui a été très, très remarqué. Mais d'autre part, c'est une des conventions qui a laissé le souvenir les plus forts. On a été obligé de transformer la ville dans une sorte de camp retranché. On est en plein moment de l'émergence des protestations universitaires, des étudiants, qui ne sont pas d'ailleurs sans annoncer quelque peu les soutiens à Bernie Sanders aujourd'hui.
Oui, en tout cas du côté de McCarthy, il y a des ressemblances avec la candidature de Bernie Sanders qui s'appuie, comme il le faisait, sur la jeunesse pour proposer un programme très à gauche.
Un professeur en politique.
Un professeur en politique, quel scandale. Cette convention démocrate a été très compliquée puisqu'elle se situe en pleine guerre du Vietnam, avec donc des opposants très résolus à la guerre, qui sont de mieux en mieux organisés à partir du printemps 68. Et puis, elle survient après l'assassinat de Bobby Kennedy, début juin, l'assassinat de Martin Luther King.
Bobby Kennedy, c'est-à-dire Robert Kennedy, le frère cadet du président.
Qui était en lice pour la candidature à la présidence, qui l'aurait probablement emporté en juillet du côté du Parti démocrate, et qui bénéficiait aussi de l'aura et du prestige de sa carrière politique, et puis aussi de son frère, bien sûr, John Kennedy, lui-même assassiné quelques années auparavant.
Donc ces deux meurtres, évidemment, pèsent beaucoup, c'est-à-dire
pèsent très lourd,
Kennedy
et King, sur la convention démocrate de l'été à Chicago, qui se passe de surcroît dans une ville qui était le bastion démocrate par excellence aux États-Unis, qui est alors dominée par un maire à poigne, Richard Daley, un maire très conservateur, en réalité, qui lance une police réputée pour sa brutalité contre les manifestants qui sont à proximité de l'endroit où les délégués démocrates sont réunis. Et sous les yeux des caméras, la police frappe, blesse les manifestants. Bref, l'ensemble de la convention est marqué par les violences, par les scandales.
L'atmosphère de complot aussi.
Une atmosphère.
Le procès des huit de Chicago qui suit.
Qui suit, des huit manifestants accusés d'avoir fomenté une émeute contre la ville de Chicago et contre l'ordre public. Ils sont donc poursuivis par le ministère de la Justice. Et parmi ces huit, on compte d'ailleurs un des fondateurs des Panthères Noires, Bobby Seale, qui plus tard est acquitté et l'ensemble de la procédure est finalement classé. Mais cela est très parlant de ce qu'est aussi la Convention. Ce n'est pas simplement un endroit où les délégués se réunissent paisiblement pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle, mais tout autour de la Convention, il y a des manifestants, il y a des associations qui viennent se faire connaître. Bref, la ville de la Convention, Milwaukee par exemple, pour le Parti démocrate, dans quelques mois, voit converger des milliers de personnes avec des causes, avec des idées à faire valoir. La Convention, c'est un grand moment démocratique aussi, peut-être encore plus en dehors des murs, en quelque sorte, de la Convention, du côté de cette société civile qui s'exprime, parfois de façon très véhémente, à l'occasion de ce happening politique.
Ce qui pose également la question du rôle des médias. Qu'est-ce que l'on reflète ou qu'on ne reflète pas? On avait essayé dans les années 50 de mettre au point ce qu'on appelait la Fairness Doctrine, une sorte de doctrine d'équilibre pour les médias, beaucoup moins, évidemment, contraignante que ce n'est le cas dans nos pays européens, en France en particulier. Et puis très vite, on leur a laissé la bride sur le coup et ils jouent un rôle majeur pour favoriser tel ou tel. On a bien vu d'ailleurs dans l'archive les propos de Jacques Salbert, l'importance que les médias ont pu avoir dans l'émergence de tel ou tel. Le professeur McCarthy, celui qui ressemble à un professeur, a été à un moment donné, surgissant comme une surprise, ça a été vrai aussi de Carter, la vedette à laquelle on s'est intéressé, même si finalement c'est Herbert Humphrey qui a été désigné comme candidat. Et ce rôle des médias neufs mérite attention à la fois les médias libres et la publicité.
Il y a en effet l'importance au sein des médias, en particulier de la télévision, qui joue un rôle tout à fait essentiel. Les médias en général sont souvent friands d'ailleurs de personnalités nouvelles. Et donc un candidat nouveau, intéressant, brillant...
Ça rappelle quelque chose dans le cas français, mais ne nous égarons pas.
Fera l'objet de toutes les attentions et d'un traitement relativement favorable. On aime les challengers, ne serait-ce que pour organiser aussi un peu de suspense, en particulier dans des conventions qui sont souvent réglées d'avance. Mais il n'y a pas que la télévision, puisque dès l'apparition des premières conventions politiques, lors de l'élection présidentielle de 1832, eh bien, la presse, écrite évidemment à l'époque, fait de longs comptes rendus à propos des débats qui s'y déroulent. Et au fond, ces conventions des partis, même si elles peuvent apparaître comme extrêmement formelles et réglées d'avance, sont aux États-Unis des lieux, des moments démocratiques auxquels les médias prêtent une attention tout à fait essentielle. On notera au passage que les conventions démocrates et républicaines n'ont pas lieu au même moment pour que les équipes de télévision et les journalistes puissent se déplacer et assister aux deux pour qu'il n'y ait pas de concurrence en quelque sorte entre les deux parties à ce sujet.
Mais alors comment choisit-on les villes des conventions? Cela doit être à peu près aussi désiré par les municipalités que l'arrivée du Tour de France chez nous.
Oui, c'est un peu cela, puisque les villes candidates à l'obtention d'une convention, qu'elle soit démocrate ou républicaine, c'est l'occasion, au mois de juillet, au mois d'août, de l'afflux de dizaines de milliers de personnes. Les hôtels sont pleins, les restaurants aussi, et puis la ville bénéficie aussi d'une publicité importante sur les chaînes de télévision. Donc cette année, la ville de Milwaukee, dans le Wisconsin, du côté démocrate, et la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, ont été choisies. Elles ont été choisies aussi parce que ces deux États-là sont des États importants pour le Parti démocrate et pour le Parti républicain.
L'autre question, nous parlons de médias, c'est aussi celle de la publicité, en particulier de la publicité négative, qui pour nous est une chose assez étrangère. Je sais bien qu'en 1986, le lobby des publicitaires a essayé d'autoriser cette publicité sur les ondes, mais je dirais heureusement, une coalition entre la gauche et le centre l'a empêché.
Oui, aux États-Unis, il y a des publicités négatives qui attaquent férocement les candidats et qui sont d'ailleurs financées par des organisations ad hoc qu'on appelle les super PAC, qui peuvent être alimentées sans limite d'un point de vue financier, y compris par des milliardaires qui peuvent dépenser sans compter. Il n'y a aucune limite de dépenses de ce côté-là. Et ces dépenses ne sont pas imputées au compte du candidat.
C'est une violence, ces publicités. Je pense qu'on est dans une tradition à cet égard, puisque les adversaires de Lincoln et de son colistier Andrew Jackson, en 1864, s'entendaient qualifier de la sorte « c'est l'heure des tailleurs, des bouffons et des fanatiques ».
Il faut avoir le cuir épais pour vivre et résister à la vie politique américaine, pas seulement américaine d'ailleurs, mais l'originalité des États-Unis, c'est le rayonnement et la force de répétition de publicités extrêmement négatives qui peuvent s'appuyer d'ailleurs sur un lapsus de l'adversaire ou sur telle ou telle image malencontreuse pour en faire un argument électoral. C'est pas ce que la vie politique américaine offre de mieux, et les tentatives de réforme, y compris celles qui avaient été formulées par John McCain et Barack Obama, unies en la circonstance il y a une quinzaine d'années, ont fait long feu. Il est presque certain que la campagne présidentielle à venir sera marquée par un niveau de violence dans ses publicités télévisées tout à fait considérable. Trump, par exemple, n'a pas beaucoup de limitations morales, éthiques, quant à l'utilisation de cette forme de publicité.
On a souvent évoqué le rôle de l'argent en parlant de primaire invisible, c'est-à-dire le fait que les candidats, pour les primaires, sont obligés de passer au moins la moitié de leur temps pour aller quérir des soutiens.
C'est cela, il y a toute une partie importante des primaires qui est invisible, en tout cas des médias, de la plupart des médias, puisque les candidats passent de dîners de financement, de fundraising, comme on dit, à des rencontres avec des électeurs et des électrices fortunés. Bref, une partie du temps est consacrée en effet à la récolte d'argent, et il en faut beaucoup. Il faut aligner les millions et les millions de dollars. Et on peut expliquer d'ailleurs le retrait récent de candidats comme Peter Buttigieg, par exemple, pour des raisons financières. Il n'avait plus les moyens de continuer au-delà du Super Tuesday, sauf à s'endetter de manière déraisonnable. Il a donc choisi d'interrompre sa campagne. Donc la question des finances et de la manière dont ces finances sont mises en œuvre pendant la campagne présidentielle est aussi importante que les discours, que les rassemblements devant les foules, que la rencontre avec les électeurs.
Il y a un dernier point sur lequel je voudrais que nous insistions pour conclure notre conversation sur les primaires américaines. C'est la question de l'opposition suivant les États entre les primaires ouvertes et les primaires fermées. Ça nous intéresse d'ailleurs en France, puisque la question s'est posée lorsque, dans les années 2000, on a commencé d'introduire à gauche puis à droite la pratique américaine des primaires, modifiée à notre manière naturellement.
C'est vrai que cette pratique des primaires s'est installée progressivement en Europe, en Italie d'abord et puis en France à l'occasion d'élections présidentielles comme celle de 2007, de 2012 ou de 2017. Des primaires ouvertes en l'occurrence, c'est-à-dire comme aux États-Unis, des primaires où tous les électeurs peuvent participer sans être membres ou affiliés à un parti. Mais il y a également aux États-Unis des primaires dites fermées qui sont réservées à ceux qui sont enregistrés comme des démocrates ou des républicains.
En France, on a hésité entre les deux. Les primaires ouvertes peuvent permettre ce qu'on appelle « party raiding », c'est-à-dire le risque que des adversaires viennent s'efforcer de voter pour un candidat supposé inefficace afin de peser sur le résultat final.
On a pensé, lors des dernières primaires ouvertes du Super Tuesday, que des républicains partisans de Trump s'étaient déplacés pour pouvoir voter pour Bernie Sanders, dans la mesure où le parti républicain estime que Sanders aurait été un candidat plus facile, plus vulnérable pour l'élection de novembre. Et d'ailleurs, Trump a toujours été très indulgent à l'égard de Sanders par opposition à la violence et à la cruauté dont il fait preuve à l'égard d'un Joe Biden, par exemple.
Vous pourriez presque nous conduire en Ukraine, mais nous n'avons pas le loisir d'y aller à propos du fils de Joe Biden. L'avantage des primaires ouvertes, avec les risques que nous évoquions, c'est que si le résultat paraît certain du côté du parti destiné à perdre, c'est une manière d'aller voter déjà pour choisir un adversaire. Cela prend figure d'une sorte de premier tour des élections présidentielles.
Oui, la primaire ouverte est incontestablement plus démocratique. Elle pose des problèmes, en effet, ceux que l'on évoquait, mais la tendance quand même, sur le long terme, c'est plutôt celle des primaires ouvertes plutôt que les primaires fermées. C'est plutôt la réduction des caucus. Bref, c'est plutôt l'idée consistant à faire des primaires une grande arène ouverte à tous et à toutes, qui prépare en quelque sorte et qui engage une conversation nationale sur des questions très importantes qui ensuite, évidemment, se cristallisent autour de deux candidats à partir de septembre, lorsque le match final se dessine entre les deux candidats, démocrates et républicains.
Avec cette donnée très originale du calendrier étiré, qui aboutit à ce que les résultats des premiers États pèsent sur l'état d'esprit des votants de la suite. C'est un jeu complexe et difficile parfois à saisir pour nous.
C'est un jeu d'autant plus complexe que la place des États dans le calendrier des primaires est également décisive. Un État aussi important que la Californie, qui est l'État le plus peuplé des États-Unis, et qui fournit par exemple 10% des délégués à la convention du Parti démocrate, était installé très tardivement dans le calendrier auparavant. Et donc les Californiens ont milité pour que la primaire de Californie intervienne dès début mars, en l'occurrence lors du Super Tuesday, pour que le vote de la Californie puisse peser plus lourd. De même qu'un petit État qui, objectivement, ne compte pas beaucoup et qui est assez singulier d'un point de vue sociologique comme l'Iowa, tient beaucoup à sa place de premier dans les primaires, puisque cela donne aux électeurs de l'Iowa, du caucus de l'Iowa, une place un peu démesurée par rapport au processus électoral lui-même.
Toute l'Amérique et le monde entier regardent vers l'Iowa et vers le New Hampshire. Reste la question de savoir comment, historiquement, ce calendrier s'est dessiné. Pourquoi ces États et pas les autres?
Là encore, il n'y a pas de règle.
Comment s'explique ce calendrier spécifique?
Cela s'explique en raison du poids d'élus démocrates ou républicains qui ont réussi à faire de telle sorte que leur État soit le premier, par exemple, ou le deuxième à ouvrir le bal des primaires. Tout cela est vraiment lié à des circonstances très particulières qui peuvent être remises en cause d'un scrutin à l'autre. Et d'ailleurs, entre 2016 et aujourd'hui, il y a des variations dans le calendrier des primaires. Des États ont bougé, mais l'Iowa tient fermement à sa place de premier, qui est tout de même aujourd'hui sérieusement compromise en raison des errements et des difficultés de l'organisation du caucus. Donc les adversaires de l'Iowa en ont tiré argument pour expliquer que dans 4 ans, il faudrait faire autrement et faire dégringoler ce petit État du Midwest de sa place de premier dans le calendrier démocrate.
Eh bien, nous verrons. Merci. Merci beaucoup, Pam Diaye, d'avoir permis par votre compétence de comprendre un peu mieux dans le détail l'organisation de ces primaires américaines et de ce qu'il reste de caucus. La bibliographie, naturellement, est très très riche sur ces sujets et vous trouverez plusieurs ouvrages cités sur notre site, le site de Concordance des temps, auquel j'en suis sûr vous vous référez souvent. Mais je rends hommage à l'ouvrage de Bruce Ackerman qui s'appelle « Au nom du peuple, les fondements de la démocratie américaine » qui est paru chez Kalman-Levy en 1998, très précieux. Et puis il y a le livre d'Elisabeth Vallée, « Comprendre les élections américaines », Septentrion 2016. Du côté de votre propre bibliographie, Pam Diaye, qui est riche, je voudrais citer ici notamment votre histoire de Chicago avec Andrew Diamond. Nous avons évoqué Chicago, paru chez Fayard en 2014. Et puis vous avez été le commissaire d'une importante exposition au musée d'Orsay. Et vous en avez tiré un catalogue avec Louise Madinier, le modèle noir de Géricault à Matisse, le modèle noir dans l'histoire de la peinture. Cet ouvrage est paru chez Flammarion en 2019. Vous trouverez, vous le savez, la possibilité d'écouter, de réécouter et de podcaster cette émission également sur notre site. Samedi prochain, on n'a pas besoin de souligner l'actualité de ce sujet. Nous évoquerons la peste au temps de Justinien, au VIe siècle après Jésus-Christ, et ensuite ses dimensions concrètes, sanitaires, politiques et psychologique. Et je recevrai Claire Sotinel pour en traiter. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée si précieusement par Jeanne Guéroux, que je suis content de retrouver, avec aussi l'aide de Claire Poinsignon, une émission réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Swad Boukorsa à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Marie Chauveau pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.